Il est 6h20. Quel avenir pour l'opération Barkhane? Cela fait déjà 8 ans que l'armée française est déployée au Sahel. Plus de 5000 hommes sont sur place pour lutter contre la menace djihadiste. La France et les pays de la région participent à un sommet depuis hier, un G5 Sahel, en visio en raison de la pandémie de Covid. Bonjour Bruno Clément-Bollet.
Bonjour.
Vous êtes général de corps d'armée en 2e section. Le Sahel est une région que vous connaissez parfaitement. Vous y allez régulièrement depuis 40 ans. Emmanuel Macron doit prendre la parole aujourd'hui pour évoquer à minima un réajustement des effectifs. Ça veut dire quoi exactement? Qu'il va falloir envisager un terme à cette mission? L'armée française ne peut pas rester éternellement au Sahel?
Alors je crois que la France, enfin notre président, est face à une question extrêmement délicate qu'on peut peut-être résumer comme une sorte de triple défi. D'abord, on est pris dans une infernale équation. On peut pas partir comme ça, alors que la mission de la lutte contre le terrorisme semble inachevée, hein, au moins c'est ce que montre le terrain, et qu'ensuite nous faisons partie d'une coalition pour laquelle nous avons à rendre des comptes. Et puis d'un autre côté, autre terme de l'équation, on peut pas rester indéfiniment. Ça n'aurait pas de sens. La deuxième question à se poser, c'est comment rester, dans quelle posture rester, quand aujourd'hui 51% maintenant de l'opinion publique française semble défavorable à l'engagement. En tout cas, c'est ce qu'a donné récemment, il a été donné par sondage. Et puis, bien évidemment, avec ça, on imagine que le débat va s'inviter dans le champ politique. On pense tout de suite à la présidentielle de l'année prochaine, où probablement le maintien de l'engagement français au Sahel pèsera. Et enfin, troisième question. Comment rester quand on décide nous-mêmes de cibler comme ennemi prioritaire ACMI, présent donc notamment au Mali, mais pas que, alors que localement, les locaux, et non des moindres, ce sont les autorités, notamment du Mali et pour une moindre mesure au Burkina Faso, aujourd'hui sont enclines à dialoguer avec les islamistes, avec ceux qu'on a ciblés comme prioritaires, pour retrouver la paix, une paix globale.
Et vous pensez que ça ne se fait pas? On ne dialogue pas avec des terroristes?
Moi, je pense que ce n'est pas à moi de penser. Je pense que cette affaire, c'est une affaire sahélienne, et que localement, si on estime devoir, pour pouvoir régler les choses et retrouver une paix globale, discuter avec ceux qu'ils considèrent, puisque c'est comme ça qu'ils les considèrent, comme maliens. Je pense à ACMI, je pense à Yad Agali et son mouvement du GSIM, là, qui sont en fait des Touaregs, hein, des Touaregs maliens pour l'essentiel. Et puis je pense au Front de Libération du Massina, d'Amadou Koufa, qui fait régner le désordre au centre du Mali, et qui est constitué de Maliens d'origine Peul essentiellement.
Vous l'avez signalé, hein, l'armée française engrange des succès, mais dans le même temps, il n'y a pas un jour sans une attaque ou sans des exécutions ou des raids sur des villages. Pourquoi la France gagne-t-elle des batailles mais pas la guerre? On a l'impression qu'il pourrait y avoir 3000, 5000 hommes, 10 000 hommes de plus, ça ne changerait pas grand-chose.
D'abord, il faut tenir compte de l'espace dans lequel évolue l'engagement français. D'ailleurs, quand on parle d'engagement français, c'est un peu faussé le débat, parce que c'est une grande coalition en fait. Hein, Barkhane, c'est les 5100 hommes de Barkhane. Elles sont au milieu d'une coalition représentée par Barkhane, bien sûr, Takuba, la force européenne, ce qu'on appelle EUTM, des missions de formation des forces locales par les Européens, les MINUSMA, la grande mission des Nations Unies. Il y a la coalition du G5 Sahel, ces 5 pays qui sont groupés pour former une force particulière.
Mais toutes
et
ces
puis,
autres forces,
les armées locales.
Toutes les autres forces, les armées locales, la force européenne, tout ça, elles sont opérationnelles. Il y a une vraie relève ou c'est quand même la France qui porte le gros sur ses épaules?
Oui, il y a une grosse relève. La France porte un poids assez considérable dans cet engagement, mais il y a quand même une vraie relève qui est en train de se passer. On le souligne assez peu, mais en début d'année 2020, par exemple, quand des opérations de coalition étaient menées, 75% de l'effectif de ces opérations était fourni par la France. La dernière opération, c'est l'opération Eclipse en novembre, on a noté qu'il n'y avait plus seulement que 45% de Français dans l'ensemble de la coalition. Donc vous voyez que progressivement, le pourcentage évolue, et je sais que l'objectif de l'armée française, enfin de l'engagement de Barkhane, c'est très rapidement d'arriver à 25% de participation française pour 75% de participation locale. Donc tout ça va dans le bon sens, mais ça prend du temps. Or, on est dans un monde qui est extrêmement pressé et qui veut tout de suite.
Et on sait qu'il n'y a pas que l'aspect militaire, hein, la solution ne pourra pas être exclusivement militaire. Il faut aussi des États qui fonctionnent. Il y a plein de zones qui n'ont pas de médecins, pas d'instituteurs. Ça aussi, ça joue en faveur des djihadistes.
Alors là, vous mettez le doigt sur une des grandes causes de cette grande déstabilisation sahélienne, c'est le vide, l'absence totale d'État. Quand l'État ne remplit plus ses devoirs régaliens en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de développement, eh bien, les gens locaux qui ont à continuer à vivre composent avec celui. Vous savez, la nature a horreur du vide. Elle compose avec celui qui est présent. Et aujourd'hui, il est à noter que dans beaucoup de régions, notamment au Mali, les djihadistes sont plus présents que les forces locales.
Je rappelle que vous connaissez très bien la région. Expliquez-nous comment les djihadistes font pour rallier justement ces populations dans certains territoires. Comment ils s'y prennent ?
Alors, ils ne rallient pas toujours. Hein. Ils imposent plus souvent. Mm-hmm. Je ferai référence au excellent film qu'il y avait il y a quelques années qui s'appelait Timbuktu et qui montrait bien que cette paix djihadiste, elle était imposée à la population locale. Je voyais que les jeunes, quand on les empêche de jouer au football, quand on empêche les jeunes de chanter, c'est pas très très apprécié. Ça l'est pas du tout chez nous et ça l'est pas du tout non plus au Mali. Hein. Il n'y a pas de raison que. Donc il faut mesurer les termes et ne pas penser que les Maliens, que les Burkinabés, Tchadiens et autres Sahéliens souhaitent la paix djihadiste.
Et est-ce qu'il y a une rivalité entre les différents groupes armés de cette région ?
Oui, il y a une rivalité entre ceux qui se disent d'obédience ACMI, hein, donc ceux dont on vient de parler, et qui sont essentiellement des locaux hein, maliens. Mm-hmm. Et puis l'autre grand paquet, c'est Daesh, bien sûr, avec un mouvement qui s'appelle l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, et qui est sous la houlette d'un certain Al-Sahraoui qui lui n'est pas un local. Il vient du Maroc. C'est un, comme son nom l'indique, hein, il vient de la région de l'ancien Sahara espagnol. Et voilà. Et il y a une grande rivalité entre ces deux groupes. Et en 2020, on a pu noter beaucoup d'affrontements locaux entre Daesh et ACMI. Chaque groupe n'ayant pas la même conception de ce qu'on appelle le pouvoir islamique représenté sur place.
Comment entrouvrir une porte de sortie hein. On va attendre la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Merci Bruno Clément-Bollé. Je rappelle que vous êtes général de corps d'armée en deuxième section et vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.